Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 5 mars 2025. Le président américain Donald Trump s'est félicité mardi devant le Congrès des politiques instaurées depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier.
Le dynamisme de l'Amérique est de retour.
Retour dans un instant sur les grands moments de ce discours sur l'état de l'Union. Londres refuse de payer à Kigali le solde de l'ex-accord sur les migrants. Au Cameroun, les avocats sont en grève pour protester contre les violences policières. En Guinée, référendum présidentiel et législatif en 2025, selon le Premier ministre. Ne manquez pas notre page sport, on commence par le journal. Le président Donald Trump a prononcé un discours devant une session conjointe du Congrès hier soir, louant les premières mesures prises par son administration pour réduire la bureaucratie, ordonner des tarifs douaniers sur les partenaires commerciaux les plus proches de l'Amérique et faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle signe un accord de paix. Un discours fortement apprécié par les républicains, ce qui n'était pas le cas chez les démocrates. Le reportage de Patsy Widakuswara avec le récit de Nani Talani.
The President of the United States.
Le discours du président Donald Trump prononcé mardi soir est le premier qu'il prononce devant une session conjointe du Congrès depuis le début de son second mandat le 20 janvier.
Le dynamisme de l'Amérique est de retour. Notre esprit est de retour. Notre fierté est de retour. Notre confiance est de retour. Et le rêve américain est en plein essor, plus grand et meilleur que jamais.
Mais à peine 5 minutes plus tard, le représentant démocrate Al Green du Texas commence à crier que Trump n'a, je cite, « aucun mandat pour réduire Medicaid, le programme d'aide gouvernementale pour la couverture médicale des personnes à faible revenu. »
Monsieur Green, prenez place.
Monsieur Green a été escorté vers la sortie. Monsieur Trump a mis l'accent sur les droits de douane élevés qu'il a promulgués mardi à l'encontre de la Chine et des voisins des États-Unis, le Mexique et le Canada. Ces trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis ont menacé de prendre des mesures de rétorsion, ce qui a fait chuter les marchés financiers par crainte d'une nouvelle guerre commerciale.
Il y aura quelques perturbations, mais nous sommes d'accord avec cela. Ça ne sera pas grand-chose.
En début de semaine, Trump a suspendu l'aide militaire à l'Ukraine suite à la rencontre tendue de la semaine dernière dans le bureau ovale avec le président Volodymyr Zelensky au sujet d'un accord qui donnerait aux États-Unis des droits sur les minerais ukrainiens de terres rares. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par Donald Trump pour inciter Kiev à accepter un accord qui mettrait fin à l'invasion du pays par la Russie.
Simultanément, nous avons eu des discussions sérieuses avec la Russie et nous avons reçu des signaux forts indiquant qu'ils sont prêts pour la paix.
En présentant la réponse des démocrates, la sénatrice Elissa Slotkin du Michigan a souligné le vif échange entre Donald Trump et Zelensky.
Cette scène dans le bureau Oval n'était pas seulement un mauvais épisode de télé-réalité. Elle résumait toute l'approche de Trump à l'égard du monde. Il croit qu'il faut s'acquérir avec des dictateurs comme Vladimir Poutine et donner des coups de pied à nos amis comme les Canadiens. Il considère les leaderships américains comme une simple série de transactions immobilières.
D'autres démocrates ont manifesté leur protestation pendant que Trump parlait, en portant du rose pour attirer l'attention sur les politiques de Trump qui, selon eux, ont un impact négatif sur les femmes et les familles et en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Masque vol » en faisant référence aux efforts du milliardaire de la technologie Elon Musk pour réduire la bureaucratie fédérale en annulant les contrats gouvernementaux et en licenciant des dizaines de milliers d'employés fédéraux.
Tout bureaucrate fédéral qui résiste à ce changement sera immédiatement démis de ses fonctions parce que nous sommes en train de nettoyer.
Encore une fois, la réponse des démocrates par Slotkin.
Vous voulez réduire le gaspillage? Je vous aiderai à le faire. Mais le changement n'a pas besoin d'être chaotique ou de nous rendre moins sûrs. Le licenciement inconsidéré de personnes qui travaillent à la protection de nos armes nucléaires empêche nos avions de s'écraser et mène des recherches pour trouver le remède au cancer. Pour les réembaucher 2 jours plus tard, aucun PDG en Amérique ne pourrait le faire sans être sommairement licencié.
M. Trump s'est félicité de la baisse du nombre de migrants franchissant illégalement la frontière sud des États-Unis.
Les médias et nos amis du Parti démocrate n'ont cessé de dire que nous avions besoin d'une nouvelle législation pour sécuriser la frontière. Mais il s'est avéré que tout ce dont nous avions vraiment besoin, c'était un nouveau président.
Aux côtés de la première dame, Melania Trump, se trouvaient des invités dont les expériences de vie amplifient le programme de son mari, notamment une militante contre les athlètes transgenres dans les sports féminins et la famille d'une femme tuée par un immigré sans papier. M. Trump a réitéré ses appels à reprendre le canal de Panama et à s'emparer du Groenland, mais pas sa demande d'expulser les Palestiniens de Gaza. Il a parlé pendant 1h40, ce qui en fait le plus long discours présidentiel devant le Congrès.
Le discours de Donald Trump devant le Congrès réuni a suscité une vague d'émotions et de réactions à l'échelle mondiale. Le point avec Eric Manirakiza.
Les propos du président américain concernant le Groenland ont attisé la colère du Danemark et du Groenland. Trump a réaffirmé que Washington obtiendrait cette vaste île arctique d'une manière ou d'une autre. Le premier ministre du Groenland a souligné que les Groenlandais ne souhaitaient pas être ni américains ni danois. Le ministre de la Défense danois a pour sa part souligné que la proposition de Trump ne se concrétiserait pas. Le président du Panama a aussi affirmé mercredi que son pays n'avait pas l'intention de remettre le contrôle du canal de Panama aux États-Unis. De son côté, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a insisté que son pays ne reculerait pas face aux menaces de Washington, qualifiant de guerre commerciale les tarifs douaniers imposés par Trump. La présidente mexicaine a quant à elle précisé qu'il existait plusieurs plans de réponse à cette situation, tout en maintenant la possibilité au dialogue. Sur le plan diplomatique, même si l'Ukraine a salué la volonté de Trump de faciliter des négociations pour mettre fin au conflit, le président ukrainien a demandé des garanties de sécurité solides pour son pays. Enfin, la présidence russe juge l'approche américaine globalement positive, mais met en avant l'interdiction d'une négociation directe entre Kiev et Moscou.
Le carême catholique débute ce mercredi au Vatican en l'absence du pape François, toujours hospitalisé dans un état stable pour une double pneumonie qui alimente les inquiétudes à l'hôpital Gemelli de Rome où il est hospitalisé depuis le 14 février. Le jésuite argentin alterne repos, prière et physiothérapie pour venir à bout de sa maladie. Le souverain pontife de 88 ans, qui n'a pas connu de nouvelles crises respiratoires mardi, s'est bien reposé pendant la nuit, a indiqué le Vatican en début de matinée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les avocats camerounais ont lancé ce mercredi 3 jours de suspension du port de la robe en désertant les prétoires pour protester contre les violences policières visant leur profession. La protestation a été impulsée par le Conseil de l'Ordre des avocats qui a dénoncé dans un communiqué les violences physiques, barbaries et aux traitements humiliants dont sont victimes de manière récurrente les avocats de la part des forces de l'ordre. Le gouvernement britannique a indiqué aujourd'hui qu'il ne paierait pas le solde réclamé par Kigali d'un accord qui visait à expulser des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda, mais qui a été abandonné l'an dernier. Le point avec Eddie Sangou.
L'annonce tombe dans un contexte où les relations entre Londres et Kigali sont tendues. Le Royaume-Uni a annoncé la semaine dernière la suspension de la majorité de son aide financière au Rwanda en réponse à l'offensive du groupe armé M23 que les forces rwandaises soutiennent dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement rwandais a dénoncé ces mesures punitives et riposté en demandant le versement des fonds auxquels le Royaume-Uni est légalement tenu dans les cadres de l'ancien accord migratoire. Un communiqué du ministère de l'Intérieur britannique a indiqué aujourd'hui qu'aucun paiement sera effectué. Pour Londres, le Rwanda a renoncé à tout paiement supplémentaire. Pourtant, Kigali réclame les reliquats des 50 millions de livres sterling en réaction à la suspension des aides de Londres. 240 millions de livres sterling, soit 288 millions d'euros, ont déjà été versés par Londres à Kigali pour les projets très controversés d'expulser au Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, initiés par les gouvernements conservateurs de Boris Johnson en 2022. Le travailliste Keir Starmer, arrivé au pouvoir en juillet 2024, a abandonné les projets.
Le chef du gouvernement guinéen a annoncé aujourd'hui à la presse un référendum et des élections présidentielles et législatives en 2025, année pendant laquelle le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif dans le pays après que la junte au pouvoir depuis 2021 a manqué à son engagement de rendre le pouvoir aux civils en 2024. Il faut retenir qu'en 2025, le retour de l'ordre sera effectif avec l'organisation du référendum constitutionnel et des élections présidentielles et législatives, a déclaré Amadou Ouriba au cours d'une conférence de presse à Conakry. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue ghanéen John Dramani Mahama ont appelé le Mali, le Burkina Faso et le Niger à réintégrer la CEDEAO. Malgré leur départ en janvier, Mahama s'est proposé comme médiateur, souhaitant une réconciliation pour lutter ensemble contre le terrorisme. En janvier 2024, les trois pays ont claqué la porte de la CEDEAO, l'accusant entre autres de ne pas les avoir aidés, assez aidés, dans la lutte contre les violences djihadistes ou d'être inféodés à la France. Et puis au Soudan du Sud, deux proches alliés du premier vice-président Riek Machar ont été arrêtés mardi et mercredi par l'armée. Loyal à son rival historique, le président Salva Kiir, dans un contexte de tension croissante entre ces deux camps qui menacent le fragile accord de paix du pays. Mercredi, le ministre du pétrole Puet Kang Chol, proche de Machar, a été interpellé selon son porte-parole. Et mardi, le général Gabriel Diop Lamb, un autre allié de M. Machar et jusqu'ici numéro 2 de l'armée régulière, avait été arrêté selon le parti du vice-président, le SPLM-IO. Ces dernières semaines, un regain de tension a été observé, notamment dans l'État du Nil, où l'armée dit avoir été attaquée par une milice liée au vice-président. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, le sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Basketball pour commencer ici à NBA, LeBron James passe la barre des 50 000 points.
Oui, le King, 40 ans, est devenu le premier joueur à dépasser la barre des 50 000 points, marqué en NBA, saison régulière et play-off confondus. LeBron James, quadruple champion NBA, a réussi cette prouesse en marquant à domicile avec les Lakers face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Les Lakers se sont facilement imposés 136 à 115 avec 34 points, 8 rebonds et 6 passes décisives pour James. Il y a 2 ans, il était devenu le recordman de points inscrits en NBA devant Kareem Abdul-Jabbar. Au cœur de sa 22e saison dans la Ligue de basket nord-américaine, ce géant du basket a été champion olympique pour la 3e fois l'été dernier à Paris. À 40 ans, James continue à être largement au niveau sur les parquets et vient d'être désigné meilleur joueur de la conférence Ouest en février, la 41e récompense du genre de sa carrière, sa première depuis 5 ans.
NBA toujours. Dans les autres matchs, Stephen Curry a encore brillé avec Golden State.
Les Golden State Warriors se sont eux imposés sur le parquet des New York Knicks 114-102 grâce à une nouvelle démonstration de leur patron Stephen Curry, auteur de 28 points, 7 rebonds et 9 passes décisives. Les Cleveland Cavaliers, leaders à l'Est, ont pour leur part enregistré un 11e succès de suite face à Chicago 139-117. En Floride, Paolo Banchero a inscrit 41 points pour Orlando, mais a vu Jacoby Walter inscrire un panier lointain gagnant pour Toronto 114-113 à une demi-seconde de la sirène. Mené de 23 points, les Phoenix Suns ont renversé les Los Angeles Clippers 119-117. Milwaukee a battu Atlanta 127-121.
Football avec la suite des matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Entre le Bayern Munich et le Bayern Leverkusen du Burkinabé Edmond Tapsoba et du Nigérian Boniface Victor, la suprématie nationale se joue sur la grande scène européenne avec des duels à tous les étages, sur le banc comme sur le terrain. Étincelle au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain accueille l'équipe la plus impressionnante de la saison, Liverpool qui règne sur la puissante Première Ligue, guidée par son pharaon égyptien, Mohamed Salah. Mais Paris a des alus de rouleau compresseur, fort de ses 10 victoires d'affilée toutes compétitions confondues, et peut compter sur l'attaquant le plus prolifique d'Europe en 2025, Ousmane Dembélé, 18 buts depuis le début de l'année. À suivre aussi Inter Milan du Nigérian Lookman Ademola, Feyenoord Rotterdam et Benfica qui joue contre le FC Barcelone.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Direction le Sénégal pour parler du drame environnemental qui menace le littoral de Bargny. Usine polluante, déchets plastiques, cette commune située à une trentaine de kilomètres de Dakar vit un véritable drame écologique. Un désastre marqué également par une inquiétante érosion côtière. Reportage à Dakar de Wani Johnson Sambou.
Le calme apparent de la mer cache une réalité bien moins reluisante. Celle d'une localité complètement défigurée par la furie des eaux. Des maisons abandonnées et d'autres en sursis. Un spectacle affligeant pour les populations de Bargny, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Ici, les habitants comme Ndeye Yassine Dieng assistent impuissants à l'effondrement de leurs habitations.
Là où nous sommes, c'était des maisons, mais tout est en boue. On est obligé, quand une maison tombe, une chambre tombe, on rejoint l'autre chambre. Ça sont des pneus, des sacs de riz, vides remplis de sable. Nous sommes fatigués, voilà.
Un ras-le-bol accentué par la présence de deux grands pollueurs, une cimenterie et une centrale à charbon. S'y ajoute un port minéralier et vraquier qui scandalise davantage les habitants et mobilise des activistes comme Medundoy Dimeza qui appellent l'État à réagir face à ce désastre écologique.
Aujourd'hui, nos gouvernants doivent imposer à ces entreprises le respect de l'environnement, c'est-à-dire respecter le code de l'environnement, investir dans la politique RSE et changer aussi la méthode de tir de mine, mettre des filtres. Et pour la centrale à charbon, il y a la possibilité de faire une transition énergétique.
Pour l'instant, les habitants ne peuvent que constater l'ampleur du drame écologique qui se joue sous leurs yeux. Ils semblent désarmés autant que les autorités municipales dont la politique environnementale peine à convaincre même les conseillers municipaux comme Salium Beng.
Les faits que nous constatons ici à Bani, c'est que la municipalité, des fois, elle noue des partenariats avec ces industries. Mais ce que je peux dire en termes d'appréciation, je dirais que la politique environnementale au niveau de la commune de Bargny est très très insuffisante par rapport à les défis.
Des défis qui concernent également la gestion des déchets plastiques, un autre signe des catastrophes environnementales qui étouffent le littoral de Bargny. Nos tentatives de recueillir les réactions de certaines entreprises indexées sont restées sans suite. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
L'État agricole de Benue, dans le centre-nord du Nigeria, est considéré comme le grenier du pays. L'insécurité a provoqué un déplacement massif des populations, obligées d'abandonner leurs champs pour se réfugier dans les camps de déplacés. Une situation qui a contribué à exacerber l'insécurité alimentaire. Les autorités nigérianes tentent de ramener ces déplacés dans leurs villages respectifs pour une reprise des activités agricoles. Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, s'est rendu à Makourdi, la capitale de Benue. Reportage.
Le camp des déplacés d'Abagina, situé à 10 km du centre-ville de Makourdi, la capitale de l'État de Benue, est l'un des camps de déplacés qui héberge encore plusieurs centaines de personnes déplacées de l'intérieur. Esta Ouda, chassée de son village, vit ici depuis plus de 10 ans. Elle ne cache pas son désir de rentrer chez elle.
I want to go do a farm work. Then I will like in.
Je veux retourner et reprendre mes activités agricoles et j'aimerais que le gouvernement nous aide avec certains matériaux comme des engrais, un peu d'argent et de la nourriture.
And food.
Comme elle, Asenda Festos souhaite aussi regagner son village pour lui permettre de reprendre ses activités.
Oui, je vais rentrer chez moi et cultiver parce qu'en tant qu'homme, ma priorité est l'agriculture, donc je vais retourner et cultiver. La terre est si fertile. Depuis combien d'années? Cela fait 8 ans maintenant que personne n'a touché les terres. Nous allons certainement récolter beaucoup.
Le gouvernement de l'État s'est fixé comme objectif d'aider au retour massif des déplacés dans leurs villages respectifs, nous dit Salomon Iopev, responsable de la communication du gouverneur de l'État de Benue.
Tout d'abord, la sécurité. Donc, la première étape du plan durable est de s'assurer que la sécurité est prise en charge. Ensuite, s'assurer d'avoir de bonnes conditions de vie sociale où les écoles sont installées, les marchés ont rouvert, les hôpitaux, des postes de police, et tout cela pour garantir la sécurité quand les gens vont rentrer.
L'une de ses stratégies est la création d'une nouvelle unité de sécurité, appelée garde de protection populaire, mise en place pour instaurer une paix durable. Elle est composée de 5000 hommes déjà déployés dans certains endroits considérés comme foyers de tension, comme le dit Ayuma Adjoubou, le commandant de cette force.
We have our men all around the world.
Nous avons nos hommes déployés partout dans les 22 sous-préfectures de l'État de Benue. Ils sont là en attente. Une fois que nous avons des informations sur une situation de crise, ils passent à l'action, essaient de mettre fin à la crise et reviennent dans leurs unités.
Plus de 600 000 personnes déplacées de l'intérieur vivent encore dans 14 camps de déplacés à travers l'État. Depuis son arrivée au pouvoir en mai 2023, le gouvernement du président Tinubu tente de reconstituer l'architecture sécuritaire du pays pour faire face aux énormes défis sécuritaires auxquels le Nigeria est confronté. Gilbert Tamba pour VOA Afrique à Makurdi, la capitale de l'État de Benue.
Au Kenya, le prestige d'avoir un diplôme pousse encore de nombreux jeunes à se tourner vers des études comme la médecine, le droit ou le management, des parcours accessibles mais coûteux. Mais les experts du marché de l'emploi affirment que ces formations ne leur garantissent pas un emploi. Pourtant, certains métiers manquent de bras. C'est pourquoi l'association CFK travaille avec des jeunes de quartiers défavorisés pour leur apprendre des métiers avec des débouchés, davantage avec des lidicos.
Anastasia Mwende a grandi dans un bidonville du Kenya. Elle a toujours aimé les voitures, mais n'a jamais pensé à devenir mécanicienne. Aujourd'hui, elle est passée d'élève vedette à un emploi à plein temps dans un garage de Nairobi.
J'apprenais les ressources humaines et puis j'ai pensé à ce que mon père m'a dit. Mais quel bureau t'embauchera dans cette économie? D'accord, tu deviens une diplômée en ressources humaines. Ensuite, quelle est la prochaine étape? Je suis venue et j'ai appris la mécanique et j'aime tellement ça. En fait, j'adore. Je choisirais plutôt cela que d'être médecin, pilote ou avocate.
Ces compétences pratiques sont actuellement plus nécessaires que les diplômes sans débouché, selon les experts comme Jeffrey Okoro, directeur de CFK, une association travaillant avec les jeunes des bidonvilles.
Ce que nous essayons de résoudre en constatant rapidement quel est l'environnement de travail actuel, en investissant dans ces jeunes qui sortent tout juste du lycée, et en leur donnant la possibilité d'acquérir des compétences suffisamment tôt, nous pouvons ainsi les pouvoir obtenir des revenus durables au fil du temps. Il y a un décalage entre les programmes de formation nationaux et le marché du travail.
Une formation rapide avec la possibilité de s'insérer sur le marché du travail et la préférence de beaucoup de jeunes qui cherchent à gagner leur vie. Nicolas, un jeune homme issu d'un milieu très modeste, a voulu commencer à travailler rapidement. Il a appris les soins de beauté et des ongles après une période d'apprentissage.
C'est incroyable car maintenant je peux faire mes achats avec mon propre argent. Je ne dépends de personne.
L'association CFK espère accélérer le processus d'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi avec un programme d'apprentissage expérimental. Jane est la propriétaire du salon dans lequel Nicolas travaille.
En ce moment, il n'y a pas d'emploi et on ne peut pas être sûr que l'on ira à l'école et qu'on trouvera un emploi. Ici, c'est pratique, c'est axé sur les compétences. Donc, si vous avez des compétences, vous pouvez travailler n'importe où, vous pouvez créer votre propre business et être indépendant.
Comme partout en Afrique, la population du Kenya est jeune. 80% des habitants ont moins de 35 ans, selon le gouvernement, qui reconnaît les difficultés que rencontrent les jeunes pour trouver un boulot. Des initiatives sont prises par les autorités, mais les fonds sont parfois mal alloués. Pour Jeffrey Okoro, il incombe aux organisations caritatives comme CFK de combler le vide. Dans Washington Forum cette semaine, l'analyse du discours de politique générale du président américain Donald Trump. Trump s'adresse au Congrès après 6 semaines de mandat marqué par des sujets comme le remaniement de la bureaucratie fédérale, les tarifs douaniers ou encore l'aide à l'Ukraine. Que retenez-vous des premières décisions du président depuis son entrée en fonction ? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Alexandrine Frolognon et ses invités sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
La FIFA a financé et ouvert les portes d'une académie des talents en Mauritanie au grand bonheur de jeunes enfants et des autorités. L'instance mondiale du ballon rond a aussi annoncé un financement de son programme FIFA Forward 3.0 qui permettra de rénover et d'agrandir le stade Cheka Boydia. Yacouba Ouedraogo nous en dit plus.
Jeunes, autorités de la FIFA et du foot mauritanien, tous mobilisés en ce jour spécial pour deux événements historiques et décisifs pour l'avenir du ballon rond en Mauritanie. Le premier, c'est l'inauguration de l'Académie des talents de la FIFA, première du genre en Afrique, qui a ouvert ses portes à Nouakchott. Bénéficiaires et donateurs se réjouissent de ce joyau, à commencer par Jill Ellis, directrice du football de la FIFA.
Je pense que c'est un jour merveilleux, non seulement pour la Mauritanie, mais aussi pour la FIFA. La collaboration entre les deux, le fait de voir les choses se concrétiser, le lancement de l'académie, les enfants qui jouent et la célébration de ce que nous mettons en œuvre ici, c'est un jour très gratifiant.
Pour Gelson Fernandez, responsable adjoint des associations membres de la FIFA, il s'agit pour l'instance du foot de ratisser le plus large possible pour découvrir de nouveaux talents.
Je pense que la première chose à faire est de s'assurer que nous ne manquions aucun talent en Mauritanie. Nous voulons trouver tous les talents, chacun d'entre eux, et leur donner une chance. C'est la devise de l'académie, donner une chance à chaque talent. À partir de là, il s'agit de les développer et de les former pour qu'ils deviennent les prochains joueurs de l'équipe nationale et, espérons-le, les prochaines légendes de ce continent.
De cette académie devraient sortir de jeunes talents mauritaniens qui rêvent de revêtir un jour le maillot de leur sélection nationale. Ils pourront alors jouer devant parents et fans dans le stade Cheka Boydia, dont la capacité va passer de 8000 places à 16000 grâce à un financement du programme FIFA Forward 3.0, près de 2,9 millions de dollars américains. Pour le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yaya, cette aide tombe à point nommé.
C'est exceptionnel, ça va changer l'image de notre football, c'est un stade moderne, même si c'est 16 000 places, mais il va donner l'impression d'un très grand stade, et couvert avec toutes les commodités et les normes d'un stade aux normes internationales pour la FIFA.
La balle est maintenant dans le camp de ces jeunes talents mauritaniens qui devront prouver à leurs premiers responsables et à la FIFA qu'ils ont eu raison de croire en eux, en leur offrant un tel cadre d'apprentissage.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Josel Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.